I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode bonus d'Histoire de succès. Je vous propose cette semaine d'écouter ou de réécouter cette conversation avec Carole qui est partie à la base d'une conversation qu'on avait sur mon serveur Discord. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous avez deux minutes, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Vous avez l'habitude. Carole est venue raconter sur le serveur qu'elle était slasheuse et ça m'a, comme je l'explique, fait un peu trembler la paupière parce que j'ai un vrai problème avec ce terme. Ceci dit, une fois qu'elle m'a un peu raconté et un peu expliqué, je me suis dit tiens, ça serait intéressant. Viens donc le raconter sur mon Twitch en live. Je vous propose là d'écouter le replay de cette conversation qui est hyper intéressante parce qu'on parle effectivement de multipotentiel, on parle du fait de ne pas rentrer dans une case. Comment tu fais pour t'adapter quand t'as tendance à vouloir faire plein de choses à la fois et de pouvoir faire plein de choses différentes, quoi. C'est très intéressant, je vous laisse en compagnie de Carole. Merci à vous, et puis bah rendez-vous sur ma chaîne Twitch aussi, vous pourrez retrouver directement le lien dans les notes du podcast. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h. On est donc avec Carole aujourd'hui. Salut.
Bonsoir.
Carole. Comment
Salut.
Ça va?
Ça va très bien.
Carole, on s'est rencontrés par l'intermédiaire du Discord, n'est-ce pas?
Oui. Tout à fait.
Oh là là. Si vous n'êtes pas sur Discord, venez sur Discord SVP, parce que c'est... Il est en train de commencer à se passer un petit truc là, tu vois, sur Discord. C'est intéressant ce qui est en train de se passer.
On papote.
Et en fait, tu as dit un truc qui m'a fait réagir, n'est-ce pas? C'est que tu m'as dit... Alors attends, je vais ressortir le message, parce que c'était marrant et que vraiment ma réaction un peu épidermique m'a fait dire « Ok, en fait, quand j'ai une réaction épidermique... » C'est qu'il faut en parler. Tu as dit « Salut Fab, si mon parcours de slasheuse t'intéresse, je peux venir te raconter sur Twitch. Je te parlerai de mes différents métiers, de mes nombreux déménagements, de ce que les autres considèrent parfois comme de l'inconstance, de mon envie de rentrer dans le moule et de me stabiliser, mais de mes fourmis dans les jambes dès que j'essaie. » Et en gros, vous avez à peu près le sommaire de quoi on va parler, puisque en fait, à cette réponse... Moi, dès que j'ai vu le terme de slasheuse, n'est-ce pas, j'ai un peu la paupière qui tremble. Tu sais, comme quand tu manques de magnésium, quoi. J'ai un peu ce truc de ah, pourquoi ce terme? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le point? Et parce que bah, tu vas un peu m'expliquer d'où vient ce terme, etc. Parce que je t'avoue que moi, je l'ai vu partout sur LinkedIn. Sur Instagram, sur machin, des gens qui s'appellent slasher. Et que moi, d'un côté, j'ai ce truc où je pense que je suis un slasher dans la définition, c'est-à-dire que je sais vraiment faire plein de choses, mais d'utiliser le terme et l'étiquette m'a toujours un peu fait trembler la paupière, quoi. Mais avant que tu nous racontes un petit peu tout ça, Carole, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu au chat et nous raconter un petit peu qui tu es?
Ouais, je peux faire ça. Donc, je m'appelle Carole, j'ai 32 ans, j'habite actuellement à Bordeaux. Et en ce moment, je fais plusieurs choses au niveau professionnel. Je suis... alors, c'est pareil, je pense que ce terme va peut-être te faire tressauter encore la paupière. Je suis facilitatrice dans un tiers-lieu du bois. Alors, facilitatrice, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que je fais la communication, l'animation et l'événementiel d'un atelier de bois qui fait aussi des cours et qui fait aussi un coworking, qui a aussi un coworking à l'intérieur.
Un tiers-lieu, tu veux dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais. Alors, un tiers-lieu, justement, ça veut dire, ce sont ces lieux, en fait, mixtes, un peu comme mon parcours, tu vois, où il se passe plusieurs choses et où on peut partager différentes activités. Et généralement, alors par exemple dans la coopérative des tiers-lieux, dans la définition, il y a qu'il faut qu'il y ait un coworking dedans. Mais à la base, les tiers-lieux n'ont pas forcément de coworking. C'est juste qu'ils ont plusieurs activités. C'est un lieu qui permet d'accueillir plusieurs activités. Et effectivement, nous, on a l'atelier de bois, donc où les gens ont accès libre aux machines. On a des cours et on a aussi le coworking.
Ok. Voilà. Est-ce que c'est dans la région de Bordeaux, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ça s'appelle La Planche, c'est à Bordeaux. Si okay. jamais vous êtes bordelais, venez nous voir, c'est super chouette.
C'est trop bien Bordeaux, il y a vraiment des je trouve enfin j'y suis allé en fait mon ex-femme, il a fait ses études tu sais pour préparer l'ENM. Elle famoso, bon, elle a pas réussi à avoir le concours, mais en tout cas elle a vécu là-bas et j'y allais très régulièrement et c'est vrai que j'y suis retourné là post Juppé quoi. J'ai l'impression qu'il a vraiment fait un truc génial avec la ville quoi depuis 10-15 ans quoi, c'est ouf hein.
Tout à fait, même 20, ça a été ouais, depuis une vingtaine d'années, ouais. Ça a vraiment bougé, ça s'est modernisé, ça s'est rajeuni, rafraîchi, et vraiment, c'est pas pour rien que les Bordelais ont bien aimé cette période-là, sans parler politique ni rien, mais juste au niveau du renouveau de la ville, ça a été assez, assez important.
Et d'ailleurs, j'ai vu depuis, on va dire 5 ans, plein de copains et de copines parisiennes, qui déménagent sur Bordeaux.
Oui.
Ce qui fait que globalement, si t'arrives à Bordeaux et que tu dis que tu viens de Paris, tu te fais insulter direct.
Il y a eu pendant une période, juste après en fait l'ouverture de la LGV, de la ligne grande vitesse, il y a eu même des stickers. Il y a eu un collectif qui mettait des stickers parisiens entre chez toi, etc. Ça a été assez violent en fait. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout. Enfin, moi en tout cas, j'ai rien contre les Parisiens. Par contre, ça. N'a pas forcément été, cette arrivée massive n'a pas été très bien gérée, politiquement parlant, justement, et au niveau de la ville. C'est-à-dire que, ils ont prévu des logements, mais qu'ils ont construits trop rapidement, et ils n'ont pas prévu forcément, il n'y a pas de travail sur Bordeaux. Donc, on a plus de monde, mais pas plus de boulot. Et puis voilà, c'était pas forcément, c'est vrai que tout a augmenté, les prix ont beaucoup augmenté. C'est très compliqué de trouver des logements actuellement, et les prix sont complètement aberrants, alors que les salaires, par contre, n'ont pas du tout augmenté à Bordeaux. Donc, c'est un peu pour ça qu'effectivement, il y a cette haine, on va dire, des Parisiens. Mais c'est juste en fait la déception de pas avoir un rythme de vie qui nous convienne quoi.
Ouais, je comprends. C'était vraiment le truc numéro un quoi, tu vois, du style ils ont fait péter les prix de l'immobilier et aujourd'hui ça devient impossible de loger dans Bordeaux quoi.
C'est très impressionnant. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre d'étudiants qui n'ont pas de logement, etc. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et maintenant, sur Bordeaux, on te loue un 15 mètres carrés, dans un état pitoyable pour des sommes astronomiques, quoi.
Ah. Donc, okay, ça ressemble un petit peu à Paris, c'est marrant.
Exactement.
Ok.
Voilà, donc ça c'est une partie, la planche c'est une partie de mon quotidien, c'est un mi-temps que je fais là-bas, et en parallèle de ça je suis auto-entrepreneur dans plusieurs domaines, dans le design qui est mon domaine on va dire de, pas de prédilection mais historique, et puis dans d'autres domaines aujourd'hui sur lesquels je suis en train de m'ouvrir, donc en tant que accompagnatrice en orientation professionnelle.
Ok, principalement. On va reparler de tout ça, mais t'as fait quoi comme étude?
Alors, j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai fait un bac général et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué, qui est à l'époque était obligatoire pour faire un BTS d'art appliqué. Ensuite j'ai fait un BTS design produit que j'ai poursuivi ensuite avec un diplôme supérieur en art appliqué, toujours en design produit. Et ensuite je suis encore allée plus loin puisque j'ai fait un master 2 en stratégie du design. Donc tout vraiment dans le design produit à 100%.
Et quand tu sors de tes études, j'imagine que tu te dis « Ah ben non, finalement, j'ai pas trop envie de travailler dans le design ou que dans le design, c'est ça, non ?»
Alors, ça a commencé déjà pendant les études. C'est-à-dire que moi, ces études-là, je les ai choisies plus pour, on va dire, embêter mes parents qu'autre chose. c'est horrible.
Ça commence. Parce que...
Alors, en plus de ça, ce sont des études qui ont coûté quand même de l'argent, hein, parce que c'est du privé. Jusqu'au master, en tout cas mon master était public, mais
jusqu'à là c'était
privé. Et en fait quand est arrivé le moment au lycée de choisir ce que je voulais faire, j'avais pas d'idée. Donc déjà à la base je devais faire S parce que j'étais forte dans toutes les matières, et quand on est fort dans toutes les matières on essaye de t'envoyer vers la filière scientifique. Puis au dernier moment j'ai bifurqué en L, mais juste pour être dans l'opposition avec ce qu'on me demandait. Et puis au moment de choisir, ouais, je sais pas, je dessinais même pas. Et c'est vrai que les gens m'ont tous dit ça, m'ont dit mais tu dessines même pas quoi. C'est des métiers où faut être passionné, faut avoir c'est une vocation normalement. T'as pas tout ça. Et j'aurais dit oui, mais je m'en fiche, je vais quand même faire ça. Et donc j'ai fait mes études. Et déjà pendant mes études, j'avais des moments de ce que j'appelle moi des moments de vide. C'est des moments pendant lesquels je me sens vide. Il y a plus rien qui me remplit. Il y a plus rien. C'est très compliqué à expliquer. Mais généralement, j'essayais de les combler beaucoup avec la consommation à cette époque-là. Donc, j'allais dans les supermarchés, j'achetais plein de choses. Dans les magasins, j'achetais plein de choses.
C'est mieux ça que la consommation de drogue, si je puis me permettre.
Mais bon. Oui, c'est mieux. C'est sûr. J'ai dit. Okay. Elle va partir dans un délire. Non, la consommation de produits.
Okay.
Enfin, de biens, on va dire. Mais bon, comme effectivement c'était des études qui coûtaient cher et que c'était mes parents qui me payaient les études, je me suis dit ok, t'as commencé, tu l'as un peu fait pour les embêter, tu vas pas quand même leur faire perdre de l'argent parce que là ça fait plus la blague quoi. Donc j'ai continué et puis j'ai commencé à bosser dans le design. Et c'est un milieu très particulier.
Excuse-moi, mais ils voulaient que tu fasses quoi tes parents?
Ils n'avaient pas forcément. Alors, si je sais que ils n'avaient pas forcément de. Ils m'ont jamais dit fais ci, fais ça. Je sais que maintenant, par exemple, après des années professionnelles, ma mère me dit mais pourquoi t'as pas bossé dans le livre? T'es passionnée par la lecture. Ton endroit préféré au monde, c'est les bibliothèques et les librairies. Enfin, on te voyait vraiment travailler dans le livre. Mais moi, j'ai des parents qui me laissaient faire mes propres choix. Et qui ne me guidaient pas. Enfin, je pense qu'ils avaient tellement peur de m'influencer qu'ils ne donnaient même pas leur avis, en fait. Ils me laissaient faire mes propres expériences, et ils me laissent toujours faire mes propres expériences. Bon, maintenant, je suis un petit peu plus âgée quand même, mais ils me laissaient faire mes expériences. Et puis, bon, je savais qu'ils étaient là pour me rattraper si jamais. Mais voilà, je n'ai pas souvenir de eux me disant « bah tiens, tu pourrais faire ça » ou « ils m'accompagnaient dans les salons, tu sais, les salons Onicep ». Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce genre de choses, mais eux me guidaient pas quoi, m'aidaient pas.
Ok. Donc pour revenir à tes études, tout ouais. Design, mais en vrai, ouais. Bon, t'as pas la flamme, mais ok.
J'ai pas la flamme. Je me retrouve avec des gens qui eux l'ont. C'est vraiment des métiers passion. Ça peut l'être en tout cas. Donc je me retrouve avec des gens qui dessinent depuis qu'ils sont hyper jeunes, qui adorent ça, qui font ça toute la journée, qui sont super forts. Alors que moi je suis vraiment pas forte du tout. Donc ça me demande beaucoup de boulot en plus de ça. C'est des études qui sont très complexes parce que, enfin comme beaucoup d'études, hein, mais comme c'est les celles que j'ai faites, je vais parler de celles-là. C'est vraiment sur le jugement en permanence. Comme souvent quand tu es étudiant, mais c'est le jugement de quelque chose qui sort vraiment de toi. C'est ta création, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as dessiné. Et on te juge là-dessus, quoi, sur une production que tu as faite. Et ils sont des études assez... Enfin, ça a été assez, assez difficile, on va dire, comme étude. Et je ne sais plus où...
Bah, t'étais quelle était la question ? Non, bah, juste je te demandais un petit peu ce que tu n'avais pas la passion, mais que ouais. Malgré tout, tu t'es allé jusqu'au bout, quoi.
Ouais, je me suis un peu acharnée et puis en plus de ça, j'ai même continué les études parce que par contre, j'adore apprendre, j'adore les études. Donc j'ai poursuivi toujours plus, j'ai retardé au maximum le moment de travailler. Et puis bon, au bout d'un moment, parce que le DSA a été passé en tant que master, donc j'avais deux masters différents. Là, je me suis dit bon, faut peut-être y aller quoi, faut peut-être se lancer.
Tu sais, alors je sais pas si tu as écouté cet épisode, mais il y a une autre personne qui a fait des études de design et très poussée et qui a arrêté. C'est Marine, c'est cette personne qui a monté l'Impertinente. Je sais pas si tu as entendu, mais je l'avais interviewée au tout début du podcast Histoire de succès. Ouais. Aujourd'hui, elle a monté un salon de thé très marrant en fait, qui cartonne dans l'île. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. En fait, son parcours est très inspirant parce que justement, tu sens la meuf qui est allée dans son parcours comme ça d'études et qu'une fois qu'elle en est sortie, elle a quasiment pas exercé.
Ouais. Moi, j'ai exercé par contre, tu vois.
Ouais.
J'ai exercé assez longtemps. Alors, ce qui est chouette avec le design et ça a été, c'est pour ça que j'ai exercé et que j'ai exercé un moment, c'est que en fait, on t'apprend un process, on t'apprend une méthode de travail et ensuite tu peux la mettre en œuvre dans n'importe quelle activité. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais des copains qui, pendant les études, savaient qu'ils voulaient faire de la voiture ou des pompes ou des fringues de sport. Enfin, voilà, ils étaient très... ils bossaient pour faire ça. Et moi, au contraire, je me suis dit, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir vraiment apprendre sur le... En fait, t'apprends après les techniques vraiment précises sur le tas, en fait. Et j'ai fait donc, j'ai fait des fringues de sport, j'ai fait du meuble, j'ai fait de l'accessoire de maison, j'ai fait de l'accessoire féminin parce que je dessinais pendant un temps les petits cadeaux Yves Rocher, les cadeaux que t'as quand t'as la carte quand t'es abonné. Voilà, j'ai fait pas mal de choses différentes, mais c'est vrai que à chaque fois je suis restée assez peu de temps dans chaque domaine.
Je me permets de te couper, mais tu dis que tu fais des fringues de sport, mais fringues de sport, c'est pas designer, fringues de sport, ça s'appelle modéliste ou styliste, quoi.
Alors, on peut, mais il y a aussi des designers qui le font et ont dessiné tout à plat, en fait. C'est-à-dire qu'on faisait pas de patronage ni rien, on travaillait avec les bonnes usines qui nous les faisaient. Donc, nous, on dessinait uniquement ce qu'on voulait et à plat et avec quand même des fiches techniques derrière. Mais j'ai dessiné des trucs pour Puma, Mammouth, Meyer Sport, enfin, Egel. Aider des grosses marques de fringues de sport.
T'étais dans une agence, c'est ça?
Oui, tout à fait. Okay.
Et donc, dans cette agence-là, il y avait un côté déjà où j'imagine que tu passais de client en client?
Oui.
Et ça te permettait de pouvoir déjà changer peut-être de...
Alors, oui et non, parce que justement, dans les fringues de sport, quand on est uniquement au niveau où nous, on était, finalement, on n'a pas forcément la main sur tout ce qui va être innovation. Donc, on connaît des petits trucs, des petites astuces, tu vois, décaler les coutures pour pas que ça frotte, etc. On suit l'actualité, mais au final, nous, on pouvait pas forcément beaucoup innover et vraiment faire des innovations à chaque fois. Donc j'y suis restée relativement un peu de temps. J'y suis restée moins d'un an. Parce qu'au final, je tournais en rond, quoi. Je tournais en rond dans ce domaine-là, comme ça a été le cas ensuite dans tous les autres domaines. Et en plus de ça, j'ai enchaîné sur le meuble. Et sur le meuble, alors à ce moment-là, j'étais chez un designer assez connu et qui, comme certains designers, on va dire, avaient des gros ego trips, c'est-à-dire que c'était un collectionneur de chaises, donc il les collectionnait dans son studio, il collectionnait aussi ses propres designs. Donc c'est-à-dire que tous les matins, il arrivait, il me disait « Tiens, j'ai une idée, on va dessiner une nouvelle chaise. » Et donc tous les jours, je dessinais une nouvelle chaise sans qu'elle n'apporte absolument rien. C'était juste que l'esthétique lui plaisait, c'est ce dont il avait rêvé la nuit dernière, et il fallait dessiner cette chaise-là. Et là, en plus de ça, ça a commencé à venir titiller mes valeurs. Alors à ce moment-là, j'arrivais pas forcément à définir ce que c'était, mais je me suis dit, ça me plaît pas forcément. C'est pas ce qu'on m'a appris au niveau design, parce que design, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau, esthétique, mais il faut surtout que ça remplisse une fonction, que ça ait une utilité. Et donc la création, alors oui, ok, une chaise, c'est utile, tu peux t'asseoir dessus, mais il faut qu'elle ait quelque chose d'autre par rapport à la précédente que t'as dessinée, quoi. Et là, je trouvais pas ça. Et en plus de ça, là, dernièrement, je m'étais spécialisée dans le meuble mass market. Donc, c'est encore pire, parce que là, je bossais pour Maison du Monde, Alinéa, La Redoute Intérieure, tout ce genre de marques. Et où là, on est vraiment dans de la production, de la surproduction, produite en très, très grande série et puis dans des pays assez éloignés, on va dire. Et où là, oui, ça a vraiment... Là, je me suis rendu compte que j'avais un problème de valeur dans mon métier. Et parce que j'avais des freelances autour de moi qui eux fêtaient le moindre contrat, ils étaient super contents des petits tout petits contrats, alors que moi j'avais des gros contrats et des gros projets. Et puis j'en suis arrivée un jour où j'ai eu la nausée devant mon ordinateur en bossant, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, ça va à l'encontre de mes valeurs, vraiment.
Ok, je comprends. Mais d'un autre côté, ce que tu disais par rapport à la chaise que tu faisais juste, enfin que tu designais juste pour toi, là, il y a un côté quand même un peu utile où tu finis par retrouver tes produits dans les maisons des gens, en fait. C'était pas valorisant, ça, à tes yeux ?
Alors déjà, moi, c'était pas mes produits, puisque, à ce moment-là, si, avec les designers, c'est leur produit, c'est leur nom qui est dessus. Après, dernièrement, dans le mass market, oui, c'est moi, mais bon, enfin, c'est sous le nom de la marque. Et finalement, non, c'est pas forcément valorisant. Enfin, c'est valorisant au niveau de l'ego, oui. C'est-à-dire que quand je racontais mon boulot à des gens, quand j'allais chez eux, généralement, je disais, tiens, t'as vu cette table basse, c'est moi qui l'ai dessinée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Okay. C'est assez marrant, c'est sûr. Mais t'étais un peu fière, etc. Mais au final, sauf que des tables basses, il en existe assez dans le monde pour tout le monde. Et on n'a pas besoin d'en produire autant, en fait. Et quand tu vois que en parallèle, Emmaüs fermait les portes des entrepôts de meubles parce qu'ils étaient full et qu'ils pouvaient plus accepter de meubles, et que moi, je continuais à dessiner entre 1 et 10 meubles par jour parce que j'en étais arrivée à un point où c'était créa, créa, créa. Donc, je dessinais non-stop. Là, je me suis dit, OK, il y a un souci. Il y a un souci, ça va pas.
Donc, c'est quoi le déclencheur? C'est le jour où tu as vraiment eu cette nausée, là, où tu racontes,
ouais.
C'est ça?
Ouais, ouais. Le déclencheur, ça a été ça. Ça faisait un moment que je me mettais au boulot de plus en plus tard. En fait, j'avais eu une première fois, donc après l'expérience de la chef designer qui collectionnait les chaises, j'étais déjà sortie du design. J'étais partie dans l'événementiel. Puis après, j'étais revenue dans le design. J'étais allée dans le design de mass market. Et effectivement, c'est vrai que j'étais freelance. Je bossais de plus en plus tard la journée. Je me mettais au boulot à 16 heures. Enfin, vraiment, je m'épanouissais plus du tout. Et effectivement, ce jour-là où j'ai eu la nausée, je me suis dit stop, faut tout arrêter. Okay. Et j'ai prévenu mes clients très peu de temps après. Je leur ai dit que 3 mois après, c'était fini. Et ça, c'était décembre 2019.
Donc, tu as quitté l'agence aussi, c'est ça?
J'étais à mon compte.
Freelance, pardon, oui. Okay.
J'étais freelance. Okay. Donc, j'ai juste quitté mes clients, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Waouh. Il y a Lara qui dit sur le chat « Gros cœur, Carole, tout ça me parle énormément. Ouais, » Je crois que c'est un peu le mal du siècle, j'ai un peu l'impression, ouais. depuis 5 ans à peu près. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'employeur, j'ai commencé à avoir pointé ça très très fort depuis 5-6 ans, quoi, tu vois. T'as vraiment la prise de conscience écologique s'est faite à toute vitesse, j'ai l'impression. Et, ouais. Et une fois que tu as pris la fameuse pilule rouge, tu peux plus te dévoir les choses que tu voyais pas avant, quoi.
Et ça, par contre, faut faire attention parce que ça peut aller très très loin. Moi, j'ai eu une espèce de, je me souviens plus le terme, il y a un terme spécifique, mais j'ai eu une espèce de dépression écologique. C'est-à-dire que j'ai pris une telle conscience comme ça de ce que moi j'avais fait, de ce que le monde faisait, de ce qu'on était en train de faire subir à la planète et de l'aberration de tout ça, que ça m'a complètement bloqué pendant un temps. C'est-à-dire que quand j'ai tout arrêté, alors déjà j'ai complètement arrêté le design. À ce moment-là, je pouvais plus entendre parler de design, parce que même si on me disait oui, mais tu sais, il y en a, ils font du design écologique, et pour moi, il fallait plus du tout produire, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait se satisfaire de ce qui était déjà produit. Donc, j'ai complètement arrêté le design. Mais en plus de ça, même en général, je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Parce que tout le reste, tout ce qui m'intéresse, tout ce que je sais faire, toutes les marques finalement, même autour de moi, etc., je ne m'y retrouve pas parce que ça va faire la même chose finalement. Ça va faire de la consommation, de la production, peu importe si je retourne dans l'événementiel, la communication, le marketing, donc tous ces milieux auxquels je suis habituée, ça fait toujours la même chose, quoi. Ça a des impacts importants sur le monde dans lequel on vit.
Ouais, je comprends. Donc, ce jour-là, tu décides de tout plaquer.
Ouais, je décide de tout plaquer et je pars à la recherche de la vocation. Alors là, autant te dire, j'ai fait le truc.
Indiana Jones, quoi.
En plus de ça, oui, je suis partie en plus en voyage parce que je me suis dit, tiens, que font les gens quand ils savent plus ce qu'ils veulent faire? Eh ben, ils partent en voyage. Et je suis partie en voyage en janvier 2020. En me disant, tiens, ça va me tomber dessus. Je vais avoir l'illumination, la révélation. J'attendais ça pendant mon voyage. Bon, il y a eu le coronavirus qui m'a fait rentrer, mais quand je suis rentrée, effectivement, les gens m'ont dit, alors, t'as trouvé? Tu sais ce que tu veux faire? Et non, je n'avais pas trouvé. Et c'était, et j'attendais vraiment que ça me tombe dessus, quoi.
Ah, oui.
Parce que on m'avait éduqué à ça, parce que en plus de ça, sur Instagram, en ce moment, on a tous ces trucs qui disent trouver le, faut pas dire le.
On va en parler d'Instagram. Non, mais je trouve que t'as raison, vraiment.
Mais ouais, trouver le job idéal, on te parle toujours du job idéal, de ta vocation, de ta mission de vie, de tout ça. Et à chaque fois au singulier, hein, on met pas de pluriel, on met un singulier. Et on te fait croire que tu vas trouver un métier où tous les matins tu vas te réveiller en étant heureux d'aller le faire toute ta vie, jusqu'à ta mort. Et je cherchais ça en fait. Et je suis partie en introspection, j'ai lu énormément de livres de développement personnel, j'ai fait beaucoup d'exercices, à chaque fois que je trouvais un exercice intéressant pour me questionner, je faisais cet exercice, mais tout en ayant l'envie de trouver un métier traditionnel, le métier que je voudrais faire en fait. Et y a eu une des questions qui est arrivée un jour dans un de mes exercices, qui était qu'est-ce qui t'indigne dans le monde ? Et cette question-là a été un petit peu le déclic, puisque je me suis dit, OK, il y a beaucoup de choses qui m'indignent dans le monde, mais il y en a une qui me porte particulièrement au niveau professionnel, c'est le fait que, justement, à chaque fois, je sois confrontée à des process de recrutement assez old school, à des gens qui sont assez fermés sur cette idée, justement, de changer de métier, d'avoir plusieurs métiers différents, etc. Et je me suis dit, tous les recruteurs finalement, auxquels j'avais été confrontée, cherchaient le mouton à cinq pattes, quoi, qui avait 10 ans d'expérience dans le domaine, qui avait 3 diplômes différents dans ce domaine-là, et surtout pas de reconversion, pas de personne en formation, pas de personnes qui viennent d'un autre domaine et qui sont en train qui pourraient apporter autre chose, alors que pour moi c'est ça qui fait que on peut évoluer, on peut apporter autre chose, parce que si on prend que des gens qui font toujours la même chose, on va continuer à faire toujours la même chose, quoi. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc sur lequel j'ai envie de travailler. Et je l'ai fait de manière très, ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire, OK, quel est le métier qui me permet de faire ça ? Et donc, je me suis dit, OK, orientation professionnelle, accompagnement professionnel. Donc, j'ai postulé chez Pôle emploi. J'ai suivi une formation dans le recrutement. Alors, super formation, par contre, justement, sur du recrutement, sur l'humain, sur les valeurs des gens, sur vraiment comprendre qui est la personne pour qu'elle puisse avoir un métier qui lui correspond, un poste qui lui correspond. Sauf que quand j'ai voulu ensuite rentrer dans le recrutement, je me suis retrouvée chez Manpower, quoi. Donc, c'était vraiment du recrutement. Donc, on prend les gens et puis on les met à des postes sans savoir qui ils sont. Juste, OK, t'as ton CV.
C'est l'intérim, quoi, Manpower, c'est ça.
Alors, j'ai commencé dans l'intérim. Enfin, j'ai fait un stage dans l'intérim, un stage avec Pôle emploi. Et ensuite, ils m'ont proposé un poste en cabinet de recrutement, parce qu'ils ont aussi des cabinets de recrutement. Donc, encore une fois, j'ai essayé de me remettre dans... Bon, c'est dommage, j'ai dit le nom de la boîte, donc je peux pas forcément dire ce qu'il m'avait proposé, mais bon, quelque chose qui me correspondait vraiment pas, ni au niveau ambiance, ni au niveau méthode de travail, enfin. Et je me suis dit, attends, mais t'es vraiment prête à repartir là-dedans, à repartir dans un job, dans un CDI, du lundi matin au vendredi soir, à faire le même boulot tous les jours. Et je me disais, mais oui, mais ça répond quand même à ma mission que je me suis trouvée. Ma mission, c'était, comment j'avais défini ça? Permettre à chacun de travailler dans un environnement en accord avec ses valeurs et ses envies. Et je m'étais dit, oui, mais ça répond à ma mission. Donc, je vais, si, c'est ma vocation, ouais. C'est mon boulot.
Je me permets de te couper, mais il y a Cyril qui dit, c'est où cette croyance du métier ultime? C'est tellement ancré dans notre culture, c'est tellement vrai. Je crois qu'il y a un pays scandinave, alors je ne sais plus exactement lequel, et j'ai peur de dire une connerie, où il te propose de changer de métier tous les 5 ou tous les 10 ans. Donc j'ai vraiment la moitié des infos, mais c'est trop intéressant parce que de ce fait-là, il y a un truc, je sais plus où j'ai entendu ça, mais vraiment ça m'avait marqué. En gros l'idée c'est comme tu dis, d'avoir des gens qui de ce fait-là arrivent avec un œil neuf sur la profession et se forment, parce qu'en plus ça t'oblige à te former, ça t'oblige à apprendre toute ta vie, à rester curieux. Enfin tu vois, on parlait tout à l'heure de se mettre à Twitch, etc. Quand t'as plus de 30 ans, c'est pas forcément évident. Donc de rester curieux et de continuer à découvrir des nouveaux métiers tous les jours. Alors, je sais plus où c'est, Cyril. Je suis vraiment désolé, mais je.
Mais il y a aussi le.
Il y a un vrai. Enfin, culturellement, c'est un truc qui. Alors, je ne sais plus. Mais voilà, je lance ça comme ça. Cherchez sur Internet. Je ne sais plus.
Mais le gouvernement canadien, apparemment, enfin une partie du gouvernement canadien fait ça aussi. Alors, je suis pas allée fouiller. Moi, c'est une information justement que Marielle Barbe donne dans un de ses, dans son livre. Marielle Barbe étant effectivement une spécialiste de ce profil de slasher, on va dire le mot. Je vais oser le dire.
N'hésite pas. Je vais juste continuer à voir. Mais tu vas sans doute. Ce qui est bien, c'est que tu vas me faire accepter le terme et que ça va aller mieux. Tu vois.
J'espère. Mais donc elle parle justement du gouvernement canadien qui demande donc à ses employés tous les 2 ans, je pense, c'est même plus court que 5 ans, hein, 2 ans, de refaire un bilan, de se poser sur l'expérience qu'ils viennent de vivre, qu'ils ont vécu, et de voir qu'est-ce qu'ils pourraient en faire et comment ils peuvent justement changer de poste et ce qu'ils peuvent apporter sur un autre poste. Enfin, c'est en mutation perpétuelle, mais on est des êtres en mutation perpétuelle, donc ça semble assez logique que nos postes soient en mutation aussi. Enfin, finalement, on veut pas manger la même chose tous les jours. Pourquoi on veut faire le même métier tous les jours, quoi?
C'est pas un peu un truc de papa, ce truc aussi? Moi, j'ai l'impression que mon père, il a fait le même métier toute sa vie, dans la même boîte en plus. Donc, tu vois, il y a vraiment un truc où il a jamais bougé. Et j'ai un peu l'impression que c'était un peu plus le cas dans les générations précédentes et que dès que tu prends le moindre risque professionnel, alors je sais pas trop comment tu vas sans doute en parler, mais comment tes proches et tes parents ont vécu tes changements d'orientation, entre guillemets, mais c'est un truc où vraiment les gens autour de toi te regardent bizarrement et te disent mais ça va pas.
Ouais, moi, ma maman, elle a fait toute sa carrière dans la même boîte. Elle a commencé au PTT, qui s'est transformé en La Poste, qui s'est transformé en France Télécom, qui s'est transformé en Orange. Et en fait, elle a fait toute sa carrière et elle y est encore. Elle va faire toute sa carrière dans la même boîte. Et non, après, par contre, j'ai de la chance à ce niveau-là, c'est que il me juge pas forcément. J'ai des parents qui veulent une seule chose, c'est mon bonheur. Et le seul problème, c'est quand même que pour eux, bouger tout le temps ne veut pas dire le bonheur. Donc ils ont juste peur de ça, c'est que finalement, ils ont l'impression que si je bouge, c'est parce que j'ai pas trouvé ce bonheur-là, et que si je l'avais trouvé, je me stabiliserais. Donc ce qui les inquiète juste, c'est de savoir quand est-ce que tu vas trouver ton truc, quand est-ce que tu vas trouver la ville, parce qu'en plus de ça, donc j'ai beaucoup changé de boulot, mais j'ai aussi changé de ville à chaque fois. Donc j'ai fait Bordeaux, Marseille, Paris, Amsterdam, Lyon et de nouveau Bordeaux. Je change à chaque fois donc de milieu social, de copains, de cercle de copains, de compagnons, et eux ont l'impression justement que si je change tout le temps, c'est parce que j'ai pas trouvé mon truc, quoi. Et c'est plus ça qui les embête.
Ok, je comprends.
C'est parce que ça correspond pas à leur idée du bonheur et à leur définition du bonheur. Donc ils se disent bon, ben elle est malheureuse si elle bouge, si elle s'en va, c'est que ça allait pas, quoi.
Ouais, j'imagine. Pour revenir à ton histoire, t'es donc dans cette agence de recrutement, c'est ça? Et tu te dis, ok, il faut que je fasse un truc, je peux pas rester là.
Alors, j'y suis même pas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils me proposent le poste, et puis en parallèle, sur un coup de tête, comme ça m'arrive souvent, puisque comme j'ai beaucoup changé de boulot, à chaque fois, je suis ce que j'appelle moi une opportuniste, dans le sens où je saute sur les opportunités. Je n'ai pas de plan de carrière. Quand je vois une annonce, quelque chose, une opportunité, je rencontre quelqu'un et que ce qu'il me propose me plaît, j'y vais. Et à ce moment-là, en parallèle du moment où on me propose donc le CDI en recrutement, je tombe sur l'annonce de La Planche, qui est un mi-temps dans un atelier de bois, mais l'annonce me plaît, il parle d'économie sociale et solidaire, il parle, toutes les missions me plaisent, l'ambiance me plaît, je postule, je fais l'entretien, ça se passe super bien, il m'appelle à peu près en parallèle de Manpower, et il m'appelle pour me dire que j'ai le poste. Et là, contrairement à Manpower où je me posais des questions, etc., là je raccroche et je fais le truc de je crie de bonheur, de ah je l'ai, c'est bon, c'est pour moi. Et là je me dis ok, c'est peut-être cool, mais sauf que j'ai ce truc de c'est un mi-temps. Et je me dis, mais alors là, au niveau stabilité, je vais être encore celle qui est absolument pas stable, qui ne peut pas gagner sa vie. Bon. Et à ce moment-là, je tombe donc sur le livre « Profession slasher » de Marielle Barbe. Et je tombe sur... elle me décrit, quoi. Elle me décrit sur toutes les pages de son livre... ça me rassure parce que ça me permet de me dire ah ok, attends, déjà je suis pas la seule, je suis pas la première, en tout cas il y a déjà eu au moins une personne comme ça. En plus elle donne beaucoup d'exemples dans son livre de profil de slasher, et puis ça me permet d'avoir une certaine légitimité. Et là je me dis ok, en fait je peux assumer ce profil là et au lieu de faire d'avoir plusieurs métiers les uns à la suite des autres, parce que c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant, je changeais tout temps parce que j'arrivais pas, enfin voilà, j'avais besoin de renouveau en permanence, ben je me suis dit ben pourquoi je ferais pas tous les métiers en même temps. Et en fait ce mi-temps me permet de faire ça, c'est-à-dire que ben je travaille quelques jours par semaine pour eux, les autres jours je suis à mon compte, je fais ce que je veux et à mon compte sur plusieurs domaines en plus d'activités. Donc ben, allons-y quoi. Et donc à ce moment-là je décide de devenir, d'assumer en tout cas, parce que je l'étais depuis le début, mais d'assumer d'être slasheuse. Et ça m'a vraiment permis de faire le point aussi, tu vois, sur toutes mes expériences, sur quel est le fil conducteur de tout ça, parce que finalement il y a quand même un fil conducteur. J'ai pas fait tout ça pour rien. Toutes ces expériences, ce sont des petites pièces de puzzle que j'ai mis ensemble, et tout d'un coup j'ai vu, tu vois, le motif général du puzzle, et là j'ai fait ah ouais, qui est pas du tout complet, hein, il manque encore plein de trucs autour, mais tout ça juste par ce mot là slasher. Donc c'est pour ça que quand toi ça t'a fait tiquer, moi je me suis dit mais moi ça a été une telle révélation que je ne peux pas parler d'autre chose que slasher.
Ouais, j'ai compris. Et en plus tu m'as dit très rapidement dans le chat que en gros, toi, ça t'a vraiment aidé à comprendre, notamment par rapport aux entretiens de recrutement, où t'es capable de faire plein de choses et qu'en fait, on venait te répondre que t'étais pas spécialiste d'un truc et que ça t'avait vraiment aidé. J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet-là, quoi.
Ben en fait, j'ai toujours été eu un problème de légitimité parce que je me suis toujours dit « Oh, je suis pas experte. Je suis pas experte dans mon domaine. » parce que je l'ai fait un an ou deux ans, ou je l'ai fait, ça a été une petite partie d'un boulot que j'ai fait un an, donc encore moins de temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment, cette expertise est vachement recherchée en France. J'ai l'impression, en tout cas par certains, qu'on va chercher des experts, au point même que les freelances, on leur demande maintenant de trouver des marchés de niche. J'ai vachement de copains, copines freelances qui suivent des coachings de stratégie, et des accompagnements stratégiques, et où on leur dit trouvez votre marché de niche, comme ça vous allez avoir une petite cible, vous allez devenir extra expert sur ce domaine-là, et donc vos clients ça va être fluide, etc. Et moi je trouve que c'est, enfin pour moi c'est une aberration. Je comprends les gens qui le font, hein, c'est s'ils se retrouvent là-dedans, mais en tout cas pour moi personnellement, quitte à être freelance, le but c'est de pouvoir faire tout ce que tu veux, quoi. Alors si t'as une passion et que tu veux te lancer uniquement là-dedans, pas de souci. Mais sinon, profites-en et fais un maximum de choses, quoi. Et donc non, l'expertise. Enfin, moi, ce que je te racontais, c'était mon dernier entretien justement chez. Enfin, mon dernier entretien. La recruteuse m'a dit bon, c'était sympa, hein, vos petites expériences professionnelles, mais bon, à votre âge, maintenant, il faudrait quand même se poser. Et c'est vrai qu'on te demande, on te dit quand t'es jeune, ah c'est bien, tu sais faire plein de choses, etc. Mais arrivé à un moment, moi j'ai plus de 10 ans, plus de 10 ans d'expérience, et pourtant je ne me considère dans aucun boulot comme étant senior, tu vois, le fameux profil où tu peux mettre un moment sur ton CV je suis senior. Et moi je ne suis senior dans rien, parce que finalement j'ai tout fait que quelques temps, donc ça a été au début, oui, j'avais un gros problème de légitimité vis-à-vis de ça, et je le retrouve même aujourd'hui dans mon boulot à la planche, parce que quand je fais de la communication, je me dis est-ce que vraiment je suis légitime à faire de la communication pour une boîte comme ça? Parce que j'en ai fait très peu, par-ci, par-là. Et à un moment, je me suis dit, ouais, ok, bon, tu sais faire et tu vas le faire différemment, tu vas le faire avec ta propre expérience, ta propre vision des choses. Et donc, ça va être d'autant plus intéressant qu'une personne qui a fait 10 ans de com, quoi.
Ouais, c'est sûr. Enfin, je suis vraiment d'accord avec ça. Cet œil neuf, pour moi, c'est un vrai truc. C'est marrant parce que je le retrouve dans plein de. dans plein de témoignages que j'ai pu avoir ces derniers temps, et c'est marrant que t'en parles comme ça aussi, quoi, parce que j'imagine que toi, quand tu arrives sans avoir forcément une très grosse expérience, t'arrives et tu viens avec justement toutes tes expériences passées.
Ouais.
Et tu viens peut-être amener quelque chose en plus, tu vois.
Mais après, je suis beaucoup dans la pédagogie maintenant, et c'est aussi grâce à Marielle Barbe. Je vous inculte à cette personne. j'ai un petit hôtel derrière.
Qui est cette personne d'ailleurs? J'avais jamais entendu parler d'elle.
Eh ben, alors moi, j'ai pas forcément trop poussé. Je sais que je l'ai découverte par un podcast et ouais. Je me suis dit waouh, c'est assez impressionnant ce qu'elle est en train de raconter. Et ensuite, j'ai lu son livre où elle raconte qu'en fait, elle c'est une slasheuse typiquement.
Donc maintenant, elle est formatrice, consultante et donc
conférencière. Ouais, voilà. Exactement. Okay. Et en fait, elle a écrit le livre qu'elle aurait voulu lire elle quand elle était jeune. Et c'est vrai que elle parle justement de l'origine du mot slasher. Slasher est un mot donc qui est originaire plutôt des États-Unis. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus accepté. Slash, c'est les slash, quoi. Donc, c'est tu mets plusieurs métiers les uns derrière les autres avec des slash. Alors, soit tu le fais par besoin financier, c'est-à-dire que bah, si tu as plusieurs petits boulots les uns à la suite des autres, t'es slasher aussi. Ça, c'est par nécessité. Mais tu peux aussi faire le choix d'être slasher. Et c'est effectivement, apparemment, de ce qu'elle dit, beaucoup plus accepté aux États-Unis. C'est déjà, en fait, comme on peut avoir un temps de retard en France et en Europe, là-bas, c'est le mot slasher, le terme slasher existe depuis très longtemps. Et nous, c'est quand même relativement récent, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout, ce terme, avant de la découvrir. Et quand j'en parle aujourd'hui à d'autres personnes, la plupart des gens ne comprennent pas, en fait, ne savent pas ce que ça veut dire. Et en fait, oui, je suis beaucoup dans la pédagogie de mon expérience. À chaque fois, maintenant que je vais en entretien, que j'explique en fait, parce que mon CV, par exemple, si j'envoie juste mon CV, si je tombe sur des recruteurs qui ne lisent pas les lettres de motivation, mon CV passe à la trappe, mais pour tous les postes, parce que finalement, moi, j'ai, chaque ligne, c'est un intitulé avec un nouvel intitulé, un nouveau domaine d'activité, un nouveau champ d'action. Donc je dois vraiment être dans l'explication et justement que montrer ce fil conducteur, je l'explique à l'oral si j'ai la chance d'aller en entretien, quoi.
Il faut. J'avais une pote qui était très forte pour faire des CV et qui m'avait expliqué qu'en fait il fallait expliquer dans le CV. Tu sais, ouais. Il fallait réussir à faire le lien dans ton CV entre tes différentes expériences.
Tout à fait.
Qui t'empêche justement d'avoir ce truc de « j'espère que le gars va lire la lettre, quoi. »
Ben, il faut normalement faire un CV, enfin, en tout cas dans mon cas et avec mon profil, il faut que je fasse un CV différent pour chaque poste auquel je postule. Mmh. Comme les lettres de motivation qu'on personnalise, ben, le CV, il faut aussi le personnaliser. Déjà, c'est mieux parce que comme ça, tu mets le bon intitulé en haut, l'intitulé qui correspond à l'annonce à laquelle tu réponds. Et en plus de ça, effectivement, ça te permet de le tourner de manière à réécrire un petit peu toutes les expériences en fonction du poste, quoi.
Alors il y a Valentout qui dit dans le chat qui dit je suis étudiante et je réfléchis de plus en plus à faire des mi-temps dans mon futur et en ce moment je fais de l'alternance et j'adore avoir ces pauses entre boulot et études. J'écoute attentivement ce témoignage. Tu vois?
C'est cool. Ouais.
Tu vas faire des petits.
Ouais, mais franchement, je me dis, alors après j'ai eu le parcours que je devais avoir, je pense, pour en arriver là. C'était essentiel pour moi de passer par toutes ces expériences de CDI, de changer à chaque fois, etc. Mais je me dis que ça a été peut-être potentiellement un peu trop long et que je suis allée dans certaines expériences où j'aurais pas forcément dû aller et j'aurais pu prendre des chemins un petit peu plus courts si j'avais accepté et si j'avais assumé mon profil plus rapidement.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est aussi ton chemin qui est intéressant. Tu vois, j'imagine que ton voyage où t'es parti pour trouver ta vocation, si tu veux, t'en as aussi tiré quelque chose, quoi, forcément.
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est.
Qu'est-ce que tu fais de beau alors aujourd'hui à côté de ton boulot à la planche? Parce que donc tu es à mi-temps, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et donc j'imagine que tu as un autre mi-temps? Ou alors tu regardes Netflix?
J'ai pas un autre mi-temps, je suis auto-entrepreneur à côté de ça. Je suis auto-entrepreneur, je me suis remis un petit peu dans le design, mais dans le design plutôt artisanal, donc avec des copains qui sont plutôt artisans. menuisier ou ébéniste. Je fais aussi, j'ai quelques clients dans le graphisme, puisque déjà quand j'étais dans le meuble mass market, en parallèle pour essayer d'équilibrer un petit peu, je faisais l'identité de certaines copines à moi qui étaient plutôt dans tout ce qui est justement développement personnel, coaching, ce genre de choses. Et puis surtout, je suis en train de développer le fait justement d'avoir fait cette introspection là et d'avoir dû lire autant de livres, d'avoir dû vraiment, je suis partie à la recherche des infos, mais en mode exploration, quoi. Alors attends, là je vais chercher un peu ça, là ça, et à un moment en fait j'ai trouvé une méthode qui regroupait tout ça, qui regroupait toutes les questions, tous les exercices que j'avais pu faire dans différents, que j'avais pu extraire de différents livres, et ça s'appelle l'ikigai. Donc alors encore une fois, c'est un terme qui t'as la paupière qui est encore très sautée.
Non, ça va, je trouve que, alors tu vois, au contraire, je trouve qu'il y a un truc alors je sais pas pourquoi, mais pour moi il y a un truc un peu noble derrière l'ikigai. Peut-être que ça vient parce que ça vient du Japon et moi de la Startup Nation, tu vois, mais c'est intéressant. En fait, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi l'ikigai est centré sur la personne, tu vois. Et moins sur une étiquette que tu vas te coller. Tu vois ce que je veux dire ou
oui,
pas?
Oui, bien sûr. Voilà. Mais par contre, alors ça dépend qui va t'apprendre l'ikigai. C'est-à-dire que l'ikigai, à la base, donc c'est une méthode qui est effectivement japonaise, mais qui a été occidentalisée par des Espagnols. Donc l'ikigai tel qu'on le connaît en France et en Europe, c'est espagnol. Les Japonais n'utilisent pas du tout l'ikigai de cette manière-là, n'ont pas du tout... Enfin, eux, ils réfléchissent pas à l'ikigai, c'est une manière de vivre. C'est vraiment, eux, ils se posent pas ces questions-là, ils le mettent pas comme ça, parce qu'en fait, c'est un diagramme, il y a plusieurs questions, et on vient répondre à ces questions-là. Et il y a beaucoup de personnes qui vendent l'ikigai en te disant, ça va te permettre de trouver le métier idéal, le job idéal, ta vocation. Et ça n'est absolument pas, en tout cas, la manière dont moi je vois l'ikigai, et dont ça m'a été utile. Et donc, en fait, je me suis formée, moi, à l'ikigai pour pouvoir transmettre ma manière de le voir, en fait. Et c'est ce que je fais aussi, donc, en parallèle de mes autres casquettes. C'est que je vais intervenir, parce que je suis en train de finir mes supports. J'aimerais intervenir dans les entreprises, dans un premier temps, pour, on va dire, réparer un petit peu les pots cassés de toutes ces générations qui n'ont pas forcément réfléchi à qui ils étaient, ce qu'ils aimaient, quelles étaient leurs envies et leurs valeurs. Donc pouvoir leur dire voilà où vous en êtes actuellement, surtout pouvoir aussi les rassurer sur le fait que c'est pas parce qu'ils voient des choses sur Instagram en parlant justement du job idéal que ça veut dire que actuellement leur job est merdique et qu'il faut qu'ils changent entièrement. Parce qu'on a tendance à penser ça, hein, à se dire « Oh là là, mon Dieu, mon quotidien est horrible, mon boulot est horrible, il faut vraiment que j'abandonne tout, que je me reconvertisse entièrement et limite que j'aille élever des chèvres, je sais pas où. » Bon, sauf que en réalité, qui le fait réellement? Personne, très peu de gens, il y en a qui le font, qui ont le courage de le faire, mais les autres vont rester dans ce métier-là, enfin dans leur boulot, en se disant « Oh mince, bah j'aurais dû, si j'avais le courage, si je pouvais tout lâcher et partir. » Sauf qu'en réalité, non, il y a d'autres méthodes aussi, et on peut changer des choses déjà dans son quotidien actuel, sans tout révolutionner, sans tout quitter, commencer par des petites étapes, et donc j'aimerais pouvoir intervenir en entreprise pour faire passer ce message-là, et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi intervenir auprès des plus jeunes, donc que ce soit dans les lycées ou dans les écoles supérieures, pour directement, justement, pouvoir aller toucher la cible, on va dire, et pouvoir ouvrir les yeux de ces jeunes-là en disant bah, « vous pouvez aussi faire d'autres choses ».
Ouais, c'est des trucs que tu as envie d'apprendre au lycée, voire même au collège, en fait, j'ai l'impression. J'ai mis le petit diagramme à l'écran, le fameux diagramme. Donc effectivement, c'est un peu ce qui se trouve au milieu de ce que tu aimes, ce sur quoi tu es bon, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin.
Tout à fait, c'est ça. Et sachant que, tu vois, moi, par exemple, le diagramme, je sais pas lequel t'as mis à l'écran, mais il y en a un où il y a des intersections. Et entre les intersections, il y a des mots. Il y a passion, vocation.
C'est celui-là.
Voilà. Alors moi, par exemple, ces mots-là, je les ai supprimés.
Ok, d'accord.
De ma version de l'ikigai. Parce que, en fait, ces mots-là sont déjà perturbants pour les gens. Oui. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire vocation? Qu'est-ce que ça veut dire passion? Mais moi, j'ai pas de passion. Ah mince, mais j'ai pas de vocation. Mais attends. Et en plus de ça, si c'est dans l'intersection de deux cercles uniquement, il n'y a pas d'équilibre. Et le principe de l'ikigai, c'est de trouver l'équilibre. Donc, c'est d'avoir l'équilibre entre ces quatre cercles. Si tu as uniquement deux cercles qui sont remplis, enfin, si tu es dans l'intersection de deux cercles uniquement, il n'y a pas d'équilibre avec le reste. Donc, ça va pas pouvoir être ton ikigai. L'ikigai, c'est vraiment le point central entre ces quatre cercles. Donc, moi, j'ai supprimé les intersections parce que c'est trop perturbant et finalement, on n'a pas à se questionner sur ça.
Ouais, c'est vrai, mais c'est intéressant. C'est peut-être le moment où on parle de Soul, tu sais, le fameux.
Ouais, bien sûr.
Le fameux film de Disney, de Disney là, qui est sorti à Noël. Et qui justement parle de. Alors, je sais plus, je pense pas qu'ils utilisent le terme de vocation, ils utilisent le terme
flamme.
De flamme, non, c'est ça, Spark. Ouais. Spark en.
Mais alors, ils utilisent le terme de flamme pendant tout le film. Et je pense quand même que. Alors, je sais plus comment ils le. Comment ils le disent, mais à un moment, il y a une scène qui. Alors, je sais pas, je peux spoiler ou pas? Non, on peut pas trop spoiler.
Tu vas spoiler lourd ou pas?
Non, je vais pas spoiler lourd, mais c'est ce qui est le plus important pour moi et qui se réduit à une phrase, donc je pense que la plupart des gens passent à côté, mais c'est qu'à un moment, le héros dit. Je sais pas, justement, il parle de vocation. À un moment, il dit, pour parler de flamme, il utilise le mot vocation ou un autre identique. Et là, il y a les êtres supérieurs qui lui dit, mais on parle pas du tout de vocation, je te parle de flamme. Et en fait, c'est là où on comprend et on dit, ah ouais, en fait, mais on s'est fourvoyé pendant tout ce temps à se dire que la flamme, ça doit forcément être un métier. Alors que non, pas forcément déjà. Et c'est pas forcément une vocation. C'est juste un petit fil en fait. C'est le fil conducteur de ta vie. C'est ce qui va te permettre en fait de. C'est ce qui vient au centre de toutes tes multiples identités. Et c'est tout ce qui ce petit endroit où tout se recoupe et que tu vas pouvoir utiliser tout au long de ta vie dans toutes tes expériences et qui va vraiment te faire vibrer. Mais ça peut être dans plein de métiers différents. Alors ça peut être vraiment un métier spécifique, mais tu peux aussi finalement l'introduire dans toutes les choses que tu vas faire dans ta vie et à ce moment-là, tu vas être équilibré parce qu'il y aura cette flamme, parce qu'il y aura cette ikigai, mais c'est pas forcément le nom d'un métier quoi. Ce qui va y avoir au centre du diagramme n'est pas forcément le nom d'un métier. Ça peut l'être pour certaines personnes.
Ou une passion d'ailleurs, parce que dans
ou d'une passion, oui bien sûr.
Dans Soul justement, c'est sa passion, c'est le piano quoi.
Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait, mais c'est là où il se rend compte justement que c'est pas équilibré et qu'il a loupé des choses, que c'est pas forcément ça la flamme quoi.
Qu'est-ce que t'as pensé de ce film?
Alors franchement, je l'ai adoré. J'ai été hyper surprise, c'est-à-dire que tout le monde m'en avait parlé et je ne savais pas forcément le thème en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait tellement de bruit que j'écoutais même plus de quoi. Enfin, j'écoutais pas. Et un dimanche soir, je me suis dit bon, ok, allez, je vais le mettre. Tout le monde en parle. Et en fait, je me suis retrouvée sur le cul en me disant ah oui, ok. Alors on en est arrivé au point où quand Disney parle de ça, c'est que vraiment, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui, aujourd'hui, est important pour les jeunes. Enfin, on a eu La Reine des Neiges juste avant, hein, sur le pouvoir féminin et puis l'autonomie féminine. Et tout d'un coup, on a Soul sur la flamme, justement, et les petites choses du quotidien. Trouver la beauté des petites choses du quotidien. Et là, je me suis dit, oui, il y a vraiment un truc à faire et il faut vraiment poursuivre ça.
Bon, ceci dit, c'était pas Disney, c'était Pixar qui avait fait juste avant Vice Versa, enfin il y a quelques années
fait,
avec les émotions et tout, donc ça rentre un peu plus dans le dans le trip quoi. Pour revenir à l'ikigai, il y a petite lubie sur le chat qui disait dans les entreprises, ils risquent pas de se dire et si nos employés font l'ikigai, ils vont partir.
Eh ben justement, moi ma formatrice fait ça dans des très grosses entreprises, y compris Leroy Merlin, enfin des gros groupes, etc. Fait des ateliers qui gaillent et si forcément les entreprises en ont peur, mais c'est tout bénéf pour tout le monde finalement. C'est-à-dire que l'employé, s'il se rend compte qu'il n'est pas à la bonne place, eh ben c'est bien pour lui parce qu'il va en partir. Et l'entreprise, si l'employé n'est pas à la bonne place, ça veut dire que ça va pas être un employé qui va être motivé, qui va être efficace et qui donc va être rentable, hein, pour parler dans le business. Et donc ça sert à rien de l'avoir ici. Alors ça veut pas forcément dire qu'il va partir de l'entreprise. Ça veut aussi peut-être dire que il faut utiliser ses capacités et ses compétences différemment. Aujourd'hui, les entreprises ont une méconnaissance complète du potentiel présent en interne et généralement vont aller chercher en externe quand ils doivent recruter, quand ils doivent avoir des intervenants, etc. Alors que potentiellement, ces personnes-là, ils les ont, ils sont à des postes qui ne leur conviennent pas. Il suffit simplement, alors c'est pas forcément aussi facile que ça, hein, mais on peut effectivement les bouger de poste et leur faire faire d'autres choses. qui leur correspondrait plus.
C'est pas forcément un move qui se fait du jour au lendemain. Ça peut être un truc qui se fait sur 6 mois ou la boîte.
Fait.
En fait, je crois que pour la boîte, le plus important, c'est de savoir qu'à ce moment-là, cette personne-là peut éventuellement ou veut éventuellement pouvoir faire tel job. Et en fait, tu le notes dans un petit coin. Et si jamais il y a un poste qui se libère, tu te dis, bah tiens, ok, il y a un truc un peu.
Et puis tu peux l'accompagner. Enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de boîtes qui même. Enfin, on pense que les grosses boîtes, c'est pas possible, etc. Il y a beaucoup de boîtes qui permettent ça. Hein.
Ah oui,
la mobilité interne, enfin c'est des choses qui, avec un bon accompagnement, etc., des formations. Maintenant, on a accès au CEP même quand on est employé. Enfin, donc on peut faire ce genre de choses.
Oui, et puis et même dans les immenses groupes. Hein, pour moi, au contraire, les immenses groupes, c'est ceux qui privilégient la mobilité interne. Tu préfères, en tant que grosse boîte comme ça. Avoir quelqu'un qui est déjà imbibé de la culture de la boîte, etc. Alors après, ça renforce un peu l'endogamie et ça amène pas forcément des gens de l'extérieur, mais je crois que tu préfères faire ça d'une manière générale, quoi.
Oui, et puis ça te permet aussi de fidéliser tes employés. Hein. Il y a un gros souci aujourd'hui justement de turnover dans beaucoup de sociétés. Et c'est les entreprises ont cette problématique-là de dire comment je fidélise mes employés. Et le principe de mobilité interne peut permettre de fidéliser ou d'ikigai, de dire voilà, nous on va vraiment apprendre à connaître nos employés, leurs forces, leurs capacités, et on va les utiliser. Ça, c'est essentiel.
On a un super slasher dans le chat qui s'appelle Justopium, qui est, je le cite, hein, électricien slash fréniste slash plombier slash chauffagiste slash menuisier slash infographiste et en gros, et poseur de signalétique et d'enseigne. Et il a commencé à bosser à 19 ans et il n'en a que 36. Donc en gros, il a déjà fait tous ces métiers-là en l'espace de 17 ans. Quoi.
Super.
J'étais en train de lui demander comment il avait fait pour par quel état d'esprit il était passé, mais pour l'instant il m'a pas répondu.
Pour
revenir à Saul, il y a Foncé qui dit mais je me demande si les enfants qui regardent ça comprennent de quoi il s'agit. Je sais pas comment tu l'interprètes, toi.
Non, je pense pas, mais c'est pas grave en fait. Enfin, il y a pas à comprendre parce que nous, on en fait une analyse, tu vois. On suranalyse le truc en se disant mais ah tiens, à tel moment ils parlent de ça, etc. Et on essaie de le comparer à notre propre expérience professionnelle. Mais eux, il y a pas à analyser en fait. C'est des petites graines, tu sais, qui rentrent et qui potentiellement, si on leur en donne, alors s'il y en a qu'une comme ça, effectivement, la société est tellement à l'inverse, on va dire, de ce mouvement actuellement, que ça risque de pas forcément faire d'effet. Mais si il commence à y avoir de plus en plus de graines et que ça fait un peu changer les mentalités, peut-être aussi du professeur qui va les accompagner, ou peut-être, eh ben là, ils n'auront pas à comprendre, mais juste au moment où il faudra choisir un métier, choisir une orientation, faire des choix. Eh ben, en fait, ce sera beaucoup plus fluide pour eux et ils seront pas en fait bloqués dans le truc de il faut que j'ai un métier, que ce soit. Non, ce sera, ils pourront faire ce qu'ils veulent parce qu'ils auront appris tout au long de leur vie qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
J'ai une petite anecdote à ce propos, c'est que ma fille aînée, quand on est allé voir Vice Versa, c'était en 2015, elle avait genre 9 ans et en fait, elle m'a dit. On est bien d'accord qu'il n'y a pas des petits bonhommes dans notre tête quand même. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que elle voulait quand même vérifier. Mais je trouve que c'était tellement bien fait de venir personnifier les émotions qu'en fait, ça lui donne un truc de ok. En fait, ça veut dire que j'ai des émotions dans la tête en fait et que on peut avoir nous en tant qu'adulte, comme tu dis, une autre interprétation plus analytique. Mais en vrai, les enfants, ça leur sème des petites graines quoi. Je trouve que c'est trop cool.
Ouais, c'est Pierre.
Ok, donc aujourd'hui tu fais plein de tu fais plein de choses et ça te va très
bien. C'est ça. Et ça me va, ouais.
Et donc tu te définis comme slasheuse et tu l'assumes et t'es là, et yes, je suis slasheuse maintenant.
Eh ben, tu sais quoi, mon profil LinkedIn, mon CV, tout indique que je suis slasheuse. Ça permet, parce que après que t'aies dit effectivement ce que tu pensais du terme slasher sur le Discord, on en a parlé avec certaines et je sais plus qui me disait oui mais est-ce que c'est pas se remettre une étiquette? Alors oui, c'est se remettre une étiquette, mais dans un monde où il y a besoin d'étiquettes. Après, ça me permet justement d'être encore une fois dans la pédagogie, mais dans un premier temps, ça rassure les gens. C'est bête hein, mais c'est je peux me définir. Je peux utiliser un mot pour me définir. Ils le comprennent pas, mais comme il y a plein de métiers, hein, de noms de métiers qu'on comprend pas, donc les gens disent ah, ok. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai quand on me demandait et toi, tu fais quoi? quand tu dis, bah, moi, je fais tout ce que je veux, ce qui me plaît, ça, ça leur fait peur. Enfin, directement, les gens, ils s'en vont en disant, oh là là, attends, elle, elle est bizarre, elle va essayer de me convertir à son truc. Alors que quand je dis, bah, je suis slasheuse, ils font, ah bon, c'est quoi? Et là, il y a de l'intérêt, et là, tu peux commencer à parler. Donc, ça, ça a un côté quand même rassurant. Ça avait un côté rassurant pour moi, et ça a un côté rassurant pour eux. Donc, je me définis comme slasheuse.
C'est classe. Et tu sais quoi? Alors, il y a juste Opium qui dit qu'il y a eu beaucoup de jugements autour de lui, mais au final, parce que je lui demandais, il me disait qu'il avait toujours eu envie d'apprendre et de, d'être en quête de nouvelles expériences, etc. Et je lui disais, mais comment t'as fait pour t'autoriser à le faire? En fait, il me dit, bah, j'ai eu beaucoup de jugements autour de moi, mais au final, c'est quand même mon bien-être qui était le plus important, quoi. Donc, et c'est vrai que il dit justement, pour moi, un slasher, c'est un couteau suisse, et je suis assez d'accord. Enfin, tu vois, ça, c'est ce que je te disais justement sur le Discord, c'est que je crois que je suis beaucoup plus à l'aise avec ce terme-là qu'avec le terme slasher. Mais au final, franchement, je crois que je me coucherais même moins bête et que tu m'as convaincu, quoi. Donc, merci pour ça.
Non, je suis contente.
Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé? Et dont tu aurais aimé causer?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. Après, j'aime bien ce que disait Juste Opium, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Sur le fait d'apprendre. Voilà. Pour ceux qui aiment apprendre, on a la chance aujourd'hui d'avoir de pouvoir apprendre en permanence, en fait. On a tellement de supports aujourd'hui qui sont gratuits, qui sont accessibles, qui permettent de se former en permanence. On a des MOOC, on a des formations, on a accès à plein de choses. On a la chance de pouvoir, alors pour ceux qui... Oui, de YouTube, rien que ça. Enfin, et pour ceux qui ont déjà travaillé un petit peu, ils peuvent utiliser leur CPF. Donc c'est vraiment voilà, si c'est un truc qui vous tente d'apprendre, n'oubliez pas toutes les opportunités qu'on a. Aujourd'hui, on a un infini des possibles. Ça peut faire peur justement quand, au niveau écologique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, mais on est beaucoup à avoir un infini des possibles. Oui, mais autant en profiter. Et justement, si vous voulez faire des choses, faites-les, quoi.
Et il y a Lumei qui dit que même le bénévolat ouvre des droits au CPF. Que je ne savais pas.
Ah ouais? Ah ben je ne savais pas, parce que moi je suis bénévole dans pas mal d'assos, mais comment on fait? Enfin, j'irai voir, je vais me renseigner.
N'hésitez pas à en parler sur le Discord, par exemple.
Ouais, tout à fait.
Carole, merci beaucoup. C'était très cool. Je vais te laisser aller, on va faire une petite pause et je vais revenir sur le live, mais tout seul cette fois.
Voilà. Ok, pas de souci. Je te suivrai.
avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être venu causer.
Merci à toi.
Pour les gens qui sont parce que je vais mettre le replay en podcast. Et donc, pour les gens qui sont sur le replay, je suis sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 20h où je reçois des gens pour les faire causer d'une manière générale. Et il y a Foncé qui dit que désormais elle a envie de devenir slasheuse et qu'elle dit merci beaucoup, c'était super intéressant. Voilà.
Ah bah super. Merci à tous.
Un grand merci à toi.
Bonne soirée.
Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.